regard sur les pères du désert, Catherine Mann et Simon Martin sur Radio Grand Ciel.
Que votre âme désire accomplir selon la volonté de Dieu, faites-le, elle sera sauvée. Dans cet apophtegme est résumée toute la spiritualité des pères du désert. Programme en apparence d'une grande simplicité et d'une liberté sans limite. Et pourtant, il suffit de se pencher sur chaque mot pour être pris de vertige. Quel est le désir de mon âme? Comment connaître la volonté de Dieu? Comment être sûr que les deux concordent et que je ne suis pas dans l'erreur? Les pères du désert consacrèrent leur vie à l'approfondissement de cet enseignement, génération après génération, s'appuyant sur l'expérience des anciens. Au commencement de cette longue chaîne d'ascètes, il y eut saint Antoine, l'étoile du désert, qui emmena si loin l'ascèse que ses tentations marquèrent durablement l'imagination de toute la chrétienté. Que pouvons-nous retenir de l'enseignement transmis par saint Antoine? C'est ce que nous allons voir avec Catherine Mann, bibliste. Catherine Mann, bonjour.
Bonjour Simon, bonjour à tous.
Je posais la question sur l'enseignement transmis par saint Antoine, mais l'enseignement est purement dans l'exemple, finalement, de sa vie et quelques apophtegmes, sinon il n'a rien laissé, saint Antoine.
Ah si, il y a ses lettres, il a donné des instructions, oui, elles sont très, très précises, très développées. C'est pas comme nous, trois mots sur un... Il entre dans une forme de transmission, oui, oui.
Ah, d'accord.
Oui, alors, mais je voulais aussi dire qu'il n'est pas le premier des moines du désert, puisque lui-même a appris auprès de moines du désert. Oui. Mais il est la pointure de la synthèse d'une première époque. Il est allé chercher, comme il dit lui-même, le miel de chacun pour faire son éducation. Il a fait le tour de tous les ermites pour prendre un peu chacun... ce qu'il avait à montrer de mieux. Et il a réussi, jusqu'à un certain point, à faire cette synthèse des qualités des premiers moines, à les réfléchir et en faire une certaine théorie transmise ensuite. Mais il n'est pas le premier à être parti se mettre dans une petite grotte.
Mais quand on pense père du désert, on pense à saint Antoine en premier.
Parce qu'il est le premier à avoir vraiment fait la synthèse de toutes les qualités nécessaires pour faire... Il a théorisé un peu la chose, et c'est ça qui est intéressant.
Alors, Catherine Mann, dans le principe, les choses sont assez simples. Être bon chrétien, c'est accomplir la volonté de Dieu. Mais alors, comment connaître la volonté de Dieu? Et que signifie se rendre conforme à son royaume? C'est toute la question.
C'est toute la question, mais c'est la question d'une vie. Un chrétien ne devrait se poser que cette question-là à chaque instant de sa vie. Ça pose la... Il n'y a pas un mode d'emploi... qu'on vous transmet le jour du baptême en disant il faut réfléchir à chaque instant de sa vie, est-ce que ce que je fais a du sens, est-ce que c'est utile, est-ce que c'est inutile, est-ce que ça me conduit dans la bonne direction, est-ce que ça conduit l'humanité dans la bonne direction. C'est toute la difficulté là. Puis même, qu'est-ce que c'est que prier? Pour les moines du désert qui priaient à longueur de journée, c'est justement se mettre à l'écoute d'une part de la parole écrite, donc connaître les Écritures, les connaître par cœur, et écouter, prier, c'est justement essayer d'entendre ce que l'Esprit dit à l'Église et ce que l'Esprit dit à la personne qui prie. C'est pas si facile, il faut déjà faire dans sa tête un sacré ménage de tranquillité pour entendre. Si on est dans le bruit du monde, c'est pourquoi il se retire.
Oui,
parce que dans le bruit du monde, on entend le bruit du monde, on n'entend pas ce que Dieu demande. À part quelques grandes règles, le genre des 10 commandements. Cela dit, quand le 10 commandements disent « tu ne tueras pas », il n'y a qu'à regarder dans le monde, même si on connaît tous ce commandement-là, personne ne le met en pratique. Donc c'est quand même un peu plus compliqué que ça.
Les Juifs en premier, même dans l'Ancien Testament, ne le mettent pas en pratique. puisqu'ils tuent leurs ennemis.
Oui, c'est très compliqué.
C'est très compliqué, oui. Parce que donc, il y a ces grandes questions, ces deux grands principes du mal et du bien qui nécessairement apparaissent dans ce questionnement-là d'être bon chrétien. C'est faire le bien et lutter contre le mal.
Ah oui,
ça
c'est
paraît
très
évident.
Simple.
Il n'y a qu'un.
Oui, mais qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal? Le problème, déjà, la réponse des pères du désert, c'est qu'on s'occupe d'abord de nettoyer devant sa porte. Qu'un des grands problèmes, c'est toujours de dire, s'il y a du mal, c'est la faute aux autres, de toujours de rejeter sur la faute des autres, et de voir la poutre dans la paille chez le voisin, au lieu de regarder la poutre qu'on a soi-même. Donc le fait de se retirer dans le désert, c'est aussi être seul à seul face à soi-même et commencer le ménage chez soi avant de commencer à trouver des règles pour le monde entier.
C'est-à-dire qu'on se situe, nous, par rapport au mal et au bien, par rapport à des critères qui sont principalement sociétaux, j'ai envie de dire, ou de notre éducation. Or, ces ermites dans le désert balayent ces critères-là surtout, et se situent par rapport à des critères qui sont
leur relation aux Écritures. Voilà. C'est la relation directe qui fait le ménage avec les tentations, le discernement justement de ce qui vient de moi comme mal. Quand le mal vient... Alors, pour un père du désert, le mal, il est dans la nature humaine parce qu'il croit au péché originel. Ouais. Donc, il faut déjà discerner ce qui vient de la nature, mais de la nature déchue, et se comparer à la nature réhabilitée en Christ. Donc, et toujours faire le bilan entre les deux formes de nature. Mais il y a aussi tous les esprits extérieurs au péché originel et autonomes, c'est-à-dire ce qu'il appelle les démons, enfin les suggestions du malin et les attaques.
Est-ce que ça veut dire que le mal, selon ces pères du désert, n'a finalement très peu de choses à voir avec ce qu'on pourrait entendre aujourd'hui? C'est pas quelque chose de moral, c'est pas lié à la justice, et c'est encore moins lié donc à la législation de ce qui est bien, de ce qui est mal?
Pas la justice, si, certainement, mais la justice divine.
Divine.
Alors non, je pense qu'effectivement, la société en vrac, c'est justement ce qui est contesté, parce que ça ne veut pas dire qu'il faut faire du mal selon la société, mais ils reconnaissent qu'il y a trop de concessions qui sont faites au mal dans les règles communes. Et il est préférable de se retirer pour faire le bien, et surtout pour empêcher les séductions du malin. Et apparemment, ils font l'expérience, Saint Antoine le premier, quand il se donne une règle de vie, il y a plein d'attaques de démons.
De démons, oui.
Qui sont d'une sournoiserie. Et qu'évidemment, dans le monde commun, si je peux dire, hors ascèse, bon, bah, ils sont à l'aise. Et on ne se rend absolument plus compte où sont les sollicitations perverses. Et moi, je vois, par exemple, les problèmes qu'on a aujourd'hui avec simplement l'écologie et les nécessités de l'urgence et toutes les bonnes volontés qui se mettent et les contradictions qui apparaissent, c'est parfois très effrayant. Je veux dire, l'exemple qui me vient, c'est les éoliennes. On se dit, voilà une bonne solution. Eh bien, il y a autant d'écologistes qui se dressent contre les éoliennes que pour. Donc, avec de bonnes résolutions de faire du bien, on n'est pas plus sûr du choix qu'on doit faire. Et alors, c'est un exemple parmi des milliers qui fait qu'on a parfois l'impression que quoi qu'on fasse, on ira dans le mur. Si on est un peu pessimiste, c'est ce qu'on voit, parce que le problème des inspirations mauvaises n'est pas réglé.
Mais est-ce que c'est pas parce que nous vivons dans une époque particulièrement relativiste? C'est-à-dire que déjà, entre le bien et le mal, on est très souvent perdu. On ne sait pas ce qui est le bien, vraiment, on ne sait pas ce qui est le mal. Et puis, on a tendance à relativiser pour ne pas porter de jugement sur l'autre, parce qu'on nous a appris que c'était mal de juger les autres. Et donc, tolérance, finalement, devient aussi quelque chose une attitude très relative.
Mais les pères du désert disaient la même chose, il ne faut pas juger les autres. C'est
oui.
C'est soi-même qui est dans le collimateur d'abord, essayer de se transformer et d'être dans l'Esprit Saint soi-même. De toute façon, tant qu'on n'y est pas, on ne voit pas clair. Ouais. C'est la question, c'est on ne commence à aider les autres que quand on voit clair suffisamment. Ouais. Le relativisme, il a toujours existé, même à cette époque-là. C'est pour ça que saint Antoine disait vraiment la vertu et l'ascèse, elle est propre à chacun. Donc il n'y a pas une règle à appliquer à tout le monde, ce n'est pas possible. Mais il faut être capable de discerner. Donc, aider l'autre, c'est voir suffisamment clair pour le conseiller, et sûrement pas toutes les choses sociales qui sont l'autorité, l'obéissance, qui est de masse.
Et c'est quand même pas lié à un contexte historique. Par exemple, les croisades qui ont eu lieu au Xe et XIe siècle nous font aujourd'hui horreur, en tout cas pour la plupart de nos contemporains. Et pourtant, certains, comme Marie-Madeleine Davis, accordent pour dire que le déclin de la chrétienté commence au XIIe siècle. C'est-à-dire que c'était le sommet de la chrétienté, c'était pendant cette période-là qui, nous, aujourd'hui, nous fait horreur. Ça veut bien dire que cette question du bien et du mal...
C'est très mélangé, ça fait horreur mélangé, les croisades, parce que... Il y avait du bien et du mal dans la croisade, mais l'initiative de la croisade, c'est quand même la ferveur de la défense des lieux saints. Et c'est un pèlerinage. Or, on n'a pas horreur des pèlerinages aujourd'hui, tout le monde a envie d'en faire. Donc, et même les non-croyants font le pèlerinage pour Saint-Jacques de Compostelle. Donc le pèlerinage, on n'en a pas horreur. C'était des saints pèlerinages comme les croisades. Le problème, c'est le mélange qui se fait. Là, on voit que depuis le départ, là, être chrétien, c'est pas simple. Il faut démêler le pervers qui se glisse dans la meilleure intention. Vous connaissez bien le proverbe, hein. L'enfer est pavé de bonnes intentions. Mais il y a des bonnes intentions dans les croisades. Puis il y a des pervers qui se sont glissés là-dedans. Mais alors, le propre des moines du désert, c'est que comme il se passe rien, pour la simple raison qu'ils sont dans le désert, ils voient bien comment les sollicitations viennent directement par l'esprit. Donc ils discernent vraiment la suggestion perverse à
sa racine. Voilà, la racine, d'accord. Racine. Ouais.
Ça, c'est extrêmement intéressant. Nous, on est tellement dans le tumulte du monde qu'on a du mal à reconnaître quoi que ce soit, si ce n'est que tout est mélangé. Et moi, ce qui me fait un peu... remonter le moral, c'est quand même que quand on pose la question au Christ lui-même, il répond avec la parabole du bon grain et de l'ivraie, quoi. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas démêler le bien du mal. C'est trop compliqué. Si vous arrachez le mal, vous arrachez le bien aussi. Alors, du coup, il dit, laissez ça aux anges à la fin du monde, c'est eux qui feront le tri. Ça remonte le moral en disant « je fais ce que je peux ». Mais ces pères du désert sont des excessifs, si je peux dire. Ils veulent expérimenter tout ça maintenant. Ouais. La fin du monde, c'est trop tard. Ils veulent tout de suite commencer. Il y a une espèce d'idée chez eux, chez saint Antoine, puisque de toute façon, ce monde, cette vie qui est la mienne, elle est promise à la mort, à la corruptibilité. On va de toute façon... mourir et se décomposer, ce corps n'a pas beaucoup d'intérêt. Ce qui est intéressant pour eux, c'est de découvrir, ici et maintenant, leur corps spirituel incorruptible, la vie éternelle. Ils veulent faire l'expérience de la vie éternelle dans le royaume de Dieu, maintenant. Donc ils ont pour vraiment très peu d'intérêt pour la survie, à la limite... si elle vient, tant mieux. Il y en a qui ont vécu très vieux, parce que, malgré tout, comme ils cherchent le bien... la pondération en tout, la modération. Si certains pères du désert, c'était déjà plutôt un peu la sobriété qui était... même saint Antoine, c'est la sobriété. C'est pas se faire mal pour se faire du mal. Oui. Donc, mais la sobriété leur permettait d'avoir des longues vies.
Oui. Mais d'ailleurs, dans la vie de saint Antoine, vie peut-être un peu légendaire, mais peu importe, il y a ce petit passage que je vais vous lire, où saint Antoine accueille ses premiers disciples, et voilà ce qui est écrit. « Ils parurent de ce château à ceux qui venaient vers lui, et il fut rempli d'étonnement de le voir dans une aussi grande vigueur qu'il eût jamais été. Il n'était ni grossi par le manque d'exercice, ni atténué par tant de jeûnes et de combats soutenus contre les démons. Il avait le même visage qu'auparavant, la même tranquillité d'esprit et l'humeur aussi agréable. Il n'était ni abattu de tristesse, ni dans une excessive joie. Son visage n'était ni trop gai, ni trop sévère. Il ne témoignait ni des plaisirs de se voir environné d'une si grande multitude, ni de complaisance d'être salué et révéré par tant de personnes, il était d'une parfaite égalité d'âme, dans un état conforme à la nature.
Oui, mais à la vraie nature, à la nature divine, c'est-à-dire son ascèse, il a fait le tri entre ce qui vient de sa nature spirituelle, réintégrée dans la vie éternelle. Bon, ça lui donne une égalité d'âme.
Cette égalité
absolue.
Incroyable. Ouais.
C'est ça le vrai but d'être père du désert.
C'est la ligne médiane, quoi. C'est cet équilibre qui.
Tout ce qui suggère des passions, c'est ça. Les suggestions diaboliques, elles sont dans des petites erreurs, mais qui dégagent des passions, des drames, des. Il n'y a qu'à voir notre monde. Enfin, imaginez notre monde en équilibre pacifique. Ouais. On en est loin, hein.
En tout cas, pour les pères du désert, ce discernement, cet accomplissement de la volonté de Dieu passe par l'ascèse, et puis pas n'importe quelle ascèse. Hein. Saint Antoine commence son ascèse en s'enfermant dans des sépulcres fort éloignés de son village, dans un tombeau carrément. C'est ce que vous venez de dire, le corps humain doit passer par...
Donc prendre conscience de ce que c'est qu'être mortel, c'est la première des choses, de voir qu'est-ce qui est important dans la vie. De toute façon, même si vous êtes très très riche, même si vous êtes très puissant, même si vous êtes tout ce que la vie vous propose, le bout, c'est quand même qu'au bout, on meurt. Donc la première des choses qu'on affronte, c'est la mort, bien entendu, c'est logique. Et alors évidemment, tout le monde affronte pas ça comme lui a fait, mais il faut en prendre conscience. Parfois, même dans la vie du Bouddha, on raconte que ce qui a déclenché toute sa démarche, c'est d'avoir pris conscience que la mort existait. Mais il y a des gens qui ne prennent conscience de la mortalité qu'à la fin de leur vie, c'est ça qui est étonnant. Et puis d'autres qui en prennent conscience très très tôt.
Il y a une idée de purification aussi qui passe à travers cette idée de la mort.
Bien sûr.
Et cette idée de purification, elle est très ancienne. Je veux dire, quand je dis elle est très ancienne, elle est aussi dans l'Ancien Testament.
Mais le problème, il est toujours effectivement que... Est-ce que l'humanité est dans son projet divin, oui ou non? Et même l'Ancien Testament nous dit bien, on peut interpréter le péché originel de diverses façons. Mais enfin, la Genèse nous montre la chute d'Adam et Ève, qui est le symbole, finalement, que l'humanité n'a pas pris la direction que Dieu avait prévue pour elle. Donc il y a la vraie nature pour laquelle l'homme est fabriqué à l'origine, puis il y a la nature déchue, avec laquelle on se débrouille depuis, et ça c'est présent dans l'Ancien Testament, bien entendu. Et il faut retrouver, qu'est-ce que c'est que le Jardin d'Éden? On était... Cette nostalgie de... Alors, on peut effectivement tourner le dos et dire tout ça, c'est des fadaises et on n'y croit pas. C'est ce que fait notre monde. C'est plus que du relativisme. Moi, je me plaindrais du fait que l'idée même d'une perfection dans une autre approche de l'humanité n'intéresse plus personne. Oui. On se satisfait du monde tel qu'il est. L'insatisfaction profonde de l'Ancien Testament a disparu. Cette espèce de démarche sous le regard de Dieu pour essayer de retrouver l'alliance, tout le monde s'en fiche, il n'y a plus d'alliance à retrouver et on est très bien comme on est.
C'est peut-être parce que depuis 3000 ans, on n'en a pas vu encore les fruits. Ce découragement aussi intervient
mais
dans l'histoire de l'humanité.
Dans quelle dimension? Le royaume de Dieu
de Dieu, par exemple, oui.
Vous avez été y voir ou pas?
Je veux dire, on n'a pas vu les fruits sur Terre, en tout
cas.
Ah
c'est pas fait pour ça.
Ben oui, mais on peut entendre le découragement, je pense évidemment à la Shoah, et puis au découragement d'innombrables croyants au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, disant, où est-ce qu'il est? Où est Dieu, quoi? Par exemple.
Où est Dieu? Mais je ne suis pas sûr que Dieu ait été absent de la Shoah.
Oui, évidemment.
C'est aussi d'une interprétation
bien sûr.
Chacun voit midi à sa porte. Ouais. Moi, je ne peux pas donner de solution. Mais la question n'est pas de... Ah, ou alors, on peut avoir une autre croyance qui n'est pas biblique, qui est que la force de l'ascèse va faire descendre le ciel sur la terre. Mais la Bible, et particulièrement si on va jusqu'à l'Apocalypse chrétienne, effectivement, la Jérusalem vient sur la terre, la Jérusalem céleste, elle descend du ciel, mais ce n'est pas la force humaine qui la fait descendre.
Ouais.
Notre époque a éliminé la grâce de Dieu et la correspondance entre l'âme et le royaume de Dieu, donc... on croit qu'on va tout réussir par, avec nos petits bras musclés, notre cerveau vachement malin, et on va trouver les solutions sans Dieu. Mais je ne suis pas sûr que ça soit vrai, moi. Mais je n'ai pas de preuves, hein. Je suis comme tout le monde, je ne sais pas.
Ce que nous apprennent les pères du désert, c'est que quand on ouvre la porte au divin, s'engouffrent aussitôt des légions de démons également.
Les malins, voilà.
Le malin.
Ce qu'on appelle un démon, un diable, ce sont les esprits jaloux du destin humain. Enfin, c'est-à-dire que dès que vous essayez de faire quelque chose de bien, vous avez les pires catastrophes qui vont vous essayer de vous détourner. Alors, ça peut être subtil, ça peut être énorme, ça peut... Donc, tout ça, c'est le discernement, effectivement, monastique.
Mais ça, on l'a...
c'est difficile, hein.
Et puis, j'ai l'impression qu'on l'a un peu oublié aujourd'hui. On devrait dire aux gens, mais méfiez-vous quand vous priez, alors méfiez-vous quand vous invoquez le Saint-Esprit, ou de manière trop extatique. Peut-être que les démons se faufilent aussi, non ?
C'est pas du tout oublié.
C'est pas oublié.
Dans le discernement spirituel, les pères spirituels sont là, justement, pour toujours vous dire, attention... T'emballe pas.
Ouais.
C'est la prudence dans le discernement, elle est toujours là dans les conseils. C'est pas sur la place publique, mais dans le conseil. Normalement, le confessionnal, si on avait encore le temps d'avoir des pères spirituels, évidemment, les choses s'aggravent parce qu'il y a de moins en moins de conseillers spirituels disponibles. Mais normalement, oui, c'est ça. Mais dans les deux sens, vous avez eu des époques, même au 19e siècle, où c'était le contraire. Les conseillers spirituels étaient toujours dans l'accusation, le découragement. Ça marche dans les deux sens, sous prétexte de vérifier que la personne était bien inspirée par les bonnes ondes, comme on dit aujourd'hui. On le décourageait tellement, on l'accusait de tout, que finalement... Le christianisme était une espèce de monstre qui fait peur, et les gens sont partis aussi par cette espèce de cruauté du clergé à un moment donné sur les âmes, même dans les congrégations religieuses. Enfin,
parviendra-t-on un jour à cet équilibre de saint Antoine ? En tout cas, si on y arrive un jour, ça passera par le discernement. Donc, on en parle depuis le début. Le discernement, c'est quelque chose d'extrêmement important. C'est-à-dire que ce qu'a légué aussi saint Antoine et tous les pères du désert, c'est que chaque mot qui sont utilisés, que ce soit quand on parle d'humilité, quand on parle d'orgueil, quand on parle de jalousie, d'impudicité, tout ça, ce ne sont pas des mots vides de sens, mais ce sont des mots qui ont été approfondis, dont le sens a été approfondi au fur et à mesure des générations.
Il faut approfondir chaque mot. On ne peut pas être dans l'accusation. Un vrai père spirituel ne vous accuse pas. Il vous ouvre une catégorie de réflexion et on essaie d'approfondir.
Donc on se pose simplement la question, qu'est-ce que l'humilité ? Ça veut dire ça ?
Il faut penser par opposition, parce que notre cerveau fonctionne comme ça. À quoi s'oppose l'humilité ?
L'orgueil ?
Oui, mais qu'est-ce que l'orgueil ?
Qu'est-ce que l'orgueil ?
Se dresser contre Dieu, et surtout une très très haute opinion de soi.
Ouais.
En général, c'est ça. Ce qui donne des aspects parfois comiques, mais parfois dramatiques. Enfin, cette très haute opinion de soi, elle peut engager des guerres, comme on en connaît actuellement. Un chef d'État arrogant qui pense avoir tous les droits.
Bien sûr, mais rien, si on prend l'exemple de l'orgueil, et donc il y a plein d'autres, évidemment, façons de pécher, évidemment.
Oui.
Mais si on garde cet exemple de l'orgueil, on voit tout de suite que c'est très compliqué, parce que des génies tels que Léonard de Vinci étaient pétris d'orgueil, mais c'est ce qui leur a permis aussi de croire en eux. Et puis
c'est assez réversible. Certains, justement, dans les pères de l'Église et les pères spirituels du désert, conseiller même de ne pas combattre les vices, comment dire, mais de les utiliser intelligemment, de les convertir, comme même la colère, par exemple, pour que ça devienne une sainte colère, qu'elle soit utile à quelque chose, parce qu'on n'arrive pas à déraciner les vices. C'est ce que dit un peu Jésus, le bon grain est livré, c'est trop mêlé. Les choses ne sont pas assez claires pour qu'on dise « je te condamne parce que... » Par contre, essayer de voir, quand on repère un vice comme la colère ou même la paresse, comment en faire un outil ? Prendre le défaut pour en faire une qualité. C'est plus prudent que d'être dans le combat Il y a autant de chemins spirituels que de personnes qui les expérimentent. Enfin, je pense vraiment qu'il faut savoir conseiller, mais pas commander, critiquer, juger. C'est de là que vient cette idée, à mon avis, de ne pas juger le prochain. Parce qu'on n'a pas les éléments pour savoir ce dont il a vraiment besoin. Mais par contre, en parlant, on peut l'éclairer et essayer de lui faire les bons choix pour lui.
Mais est-ce que ça ne ouvre pas aussi la porte à une forme d'individualisme ? En tout cas, c'est mon salut à moi, et puis...
Ouais, mais ça, c'est bien sûr, mais il faut, ça fait partie du discernement. Le discernement n'est pas une bulle. Il est en relation avec l'ensemble, non seulement l'ensemble des autres. Il faut la charité, évidemment, et notre monde actuel est interpellé par le pape François, justement pour une globalité, à travers l'écologie, mais sa bulle Laudato aussi est très claire. Non seulement il faut arriver à du discernement, mais il faut un discernement global. Ça demande une attention mondiale. On n'en a jamais, mais on a tous les outils pour ça maintenant. On a aussi la technique qui nous permet d'essayer de synthétiser tous les problèmes, mais on n'y arrive quand même pas, mais c'est quand même... C'est le chemin, il est là. Bien sûr, il faut être soi, mais soi relié. Tout est lié. Et ça, même les pères du désert en étaient conscients. Simplement, leur monde était pas aussi global que nous aujourd'hui. Évident.
Catherine Mann, on arrive presque au bout de notre émission. Si on devait... résumer, en tout cas, trouver l'essence, ce qu'on pourrait retenir de cet enseignement de Saint-Antoine, est-ce que ça serait justement d'apprendre à faire le silence en soi, à retrouver cette part de désert pour commencer simplement à faire les premiers pas vers une forme de relation avec le milieu divin et en tout cas de discernement par rapport à nos propres démons intérieurs?
Oui, le silence, mais un silence d'écoute aussi. On peut discuter des heures sur la qualité du silence. Si c'est le silence du mutisme ou de l'abêtissement, non. Mais un silence qui développe la qualité de l'écoute et de la relation avec le royaume de Dieu, de la relation avec les saintes écritures qui nous servent de langue de communication avec le ciel. Mais il faut entendre et une expérience réelle. Donc, le silence de quelqu'un qui s'endort n'a pas beaucoup d'intérêt. Hein. C'est un silence de vigilance, c'est un silence d'éveil à l'écoute de la parole. Et la parole, bien sûr, elle est d'abord personnelle. Elle n'est pas là pour vous donner des moyens de commander à autrui de ce qu'il doit faire.
On l'a déjà dit, mais on le redit, vous avez prononcé le mot expérience.
C'est les pères du désert.
C'est les pères du désert. On n'est pas dans l'intellectualisme, on n'est pas dans des dogmes, on n'est pas dans des théories, c'est des expériences vécues.
Ah oui, il n'y a que ça qui les intéresse.
Il n'y a que ça qui compte.
Ben, c'est comme ça qu'ils vérifient, qu'on ne leur raconte pas des bobards. Si vous avez l'expérience de quelque chose, ben, ça tient que la maison elle est bâtie sur le roc. Si c'est des on-dit... Et que chaque fois que quelqu'un passe, il vous dit le contraire, ben vous voltez à tous les courants d'air, et c'est pas du tout stable. Le désert, c'est aussi une recherche de stabilité intérieure, et rien de mieux qu'une expérience concrète vécue, même si elle n'est pas transcendante pour tout le monde, ben ça ne fait pas changer. La personne est ancrée quelque part dans le royaume de Dieu, ça lui donne une fermeté et une force. Alors, je crois qu'effectivement, le mot de la fin, pour moi, c'est toujours le modèle, c'est quand même d'essayer de simplifier sa vie.
Simplifier sa vie. Un grand merci, Catherine Mann. Je vous donne rendez-vous le mois prochain.
Bon, d'accord. À bientôt. Au revoir à tous.